подлости. У вас ей не хватило смелости. Вот поэтому бьет по-черному наша сраная интеллигенция. Патриот мне сказал, что я конченый тип, а нацист подтвердил и добавил, он жив. Я стоял одинокий среди грустных людей. Мне хотелось любви, им хотелось скорей. Мой город будет стоять. Мой город будет стоять. Мой город будет стоять. По переименованным улицам, по убитому детству далекому, и в отцов со страшными рожами улыбаются мне прохожие. Ночи звезды на небе светятся, ночи птихи луною маятся. Провода и столбы шевелятся, даже стены те кусаются. Ну а если проснусь, то не выдам себя. Теперь я улыбнусь, разобью зеркала. Белый саван зимы, он красит на земле. Остается следы, что-то сдохло во мне. Мой город будет стоять. Мой город будет стоять, мой город будет стоять.
Quatre, vous êtes bien à l'écoute de l'émission de Radio Libertaria, l'émission de la Sainte Éducation Région Parisienne, comme chaque deuxième mardi de chaque mois, de 20h30 à 22h30. Alors ce soir, nous accueillons Laura. Bonsoir Laura.
Bonsoir.
Qui est bergère.
Oui.
Voilà, Yann.
Bonsoir.
Bonsoir Yann. Fermier, je t'ai appelé fermier.
Voilà, on peut dire ça.
Voilà. Suno, bonsoir Suno.
Et bah oui, c'est moi.
Voilà. Donc toi, je t'ai pas appelé. Tu dirais quoi? Berger, batelier,
moi,
fermier.
Qu'est-ce qu'on peut dire?
Documentariste, saltimbanque.
Oh, espèce de nomade retraité.
D'accord. Très bien. Merci Sou. Ouais, voilà. C'est bien Sou. Ouais. On va voir après. Laurent, sœur Laurent, qui vient
bonsoir.
Avec nous ce soir dans le studio. Pour participer à la discussion. Et puis, parce que ce soir, si vous êtes venus, c'est de l'Hérault, je crois, pour nous parler du maquis, une ferme autogérée où agriculture paysanne se mêle à engagement social et action culturelle. Et nous présenterons aussi le festival en avant-première de l'été. Voilà. Et puis ensuite, on parlera du centre documentaire, parce que dans cette ferme, le maquis, y aurait un projet qui aimerait voir le jour. Ce serait d'accueillir quelques 3000 livres, autant de DVD, de quoi projeter des films argentiques en 9, en 16, enfin, je ne sais plus combien de millimètres, Suno, enfin, tout un tas d'archives, en fait, et d'ailleurs pas toutes si anciennes que ça. Donc, dans un deuxième temps, on parlera avec toi Suno et puis certainement Yann aussi, ça sera pas si cloisonné, et Laura de ce projet qui aimerait se construire, c'est le cas de le dire, au maquis.
Qui est sur la bonne voie.
Et qui est sur la bonne voie, merci Yann. Donc, comme d'habitude, toutes ces interviews, j'arrive pas ce soir, hein, je suis un peu fatiguée, je crois. Toutes ces interviews seront entrecoupées de musique de lutte, extraits de films, chroniques littéraires, rendez-vous de luttes internationales et hexagonales, grâce à Alain. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Léo. Bonsoir Léo. Rafa. Bonsoir Rafa. Et Pablo. Salut Pablo.
Bonsoir, je pense qu'on ne vous a pas entendu tout à l'heure, mais Léo, bonjour, et Rafa, bonjour.
Salut, salut.
Bon. D'accord, ok. Et donc, vous pourrez nous appeler, comme d'habitude, en direct pendant les pauses musicales au 01 43 71 89 40. On redonnera le numéro de téléphone, j'espère que je n'oublierai pas. Et donc, on pourrait s'étonner, comme c'est quand même une émission du syndicat de l'éducation, que nous parlions d'une ferme dans l'Hérault, alors que quand même notre sujet de prédilection, ce serait l'école. Eh bien, il faut se souvenir de la classe promenade que Freinet, entre autres, je cite toujours Freinet, mais c'est vrai que c'est un gros mouvement qui a entouré toutes ces pratiques alternatives. Donc, Freinet qui faisait des promenades avec ses élèves tous les après-midi. Et voilà ce qu'il en dit. La classe promenade fut pour moi la planche de salut. Au lieu de somnoler devant un tableau de lecture, à la rentrée de la classe de l'après-midi, nous partions dans les champs qui bordaient le village. Nous nous arrêtions en traversant les rues pour admirer le forgeron, le menuisier ou le tisserand, dont les gestes méthodiques et sûrs nous donnaient envie de les imiter. Nous observions la campagne aux diverses saisons. Quand l'hiver, les grands draps étaient étalés sous les oliviers pour recevoir les olives gaulées, ou quand les fleurs d'orangers épanouies au printemps semblaient s'offrir à la cueillette. Nous n'examinions plus scolairement autour de nous la fleur ou l'insecte, la pierre ou le ruisseau, nous les sentions avec tout notre être, non pas seulement objectivement, mais avec toute notre naturelle sensibilité. Et nous ramenions nos richesses, des fossiles, des chatons de noisetiers, de l'argile ou un oiseau mort, voilà ce que disait Freinet. Et donc je rajoute que c'est aussi nous en sortie que nos élèves sont inventifs et surmontent les blocages du groupe. C'est par exemple Issan qui mange avec Wadil, car il ne veut pas qu'il soit seul, lui qui a été rejeté par le groupe pendant plusieurs années, et tous les garçons de se rassembler autour d'eux. C'est sur le chemin du cinéma que mes élèves marchent enfin comme des enfants responsables, pas de chef ni d'adulte pour leur dire d'avancer ou de stopper. Non, un groupe intelligent qui se prend en charge, car il sait pourquoi il est là. En sortie encore, que le groupe retrouve un processus normal et naturel de la culture. L'observation, la pensée, l'expression naturelle et l'autogestion. Voilà. Et donc, je voulais dire enfin, et ça a été réaffirmé à Montreuil le 30 mai, alors que la ministre devait venir au nouveau théâtre de Montreuil, n'est-ce pas Alain ? Et finalement, elle s'est défilée. Donc, c'est ce jour-là qu'a été réaffirmé le fait que les blocages pour la réussite des élèves d'origine modeste sont les évaluations systématiques et les programmes trop chargés. Par contre, les clés de la réussite sont du côté des classes à grande mixité sociale, entre guillemets, la coopération et les pédagogies alternatives, en fait, celles qui nous portent à agir. Alors justement, Yann, Laura, Suno, est-ce que c'est une soif de vie promenade et de pas de côté qui a guidé vos pas vers le maquis ? Qui se lance ?
Ça dépend de chacun, je pense qu'on est...
Yann.
On est trois... trois représentants de... Enfin, c'est différent. Moi, personnellement, je sais que... avant, j'étais en région parisienne, et effectivement, dans un milieu assez cadré, l'optique, où je vendais de la lunette. Et à un moment donné, bon, ça ne me convenait plus, et... j'ai effectivement eu la chance de rencontrer le maquis à Cravirola, en Hérault, qui m'a ouvert un peu le champ de possibilités, en fait. Le champ de possibles... Voilà, dans lequel je suis depuis 3 ans maintenant. Donc c'est un chemin de vie, on va dire. Voilà, ça c'est mon histoire personnelle. Pour les autres, c'est encore différent. Par exemple...
Solo ?
Eh ben, oui, moi, déjà j'avais... On peut dire que j'ai déjà tété dans le sein de ma mère ce genre d'opposition à la vie telle qu'elle nous est imposée de nos jours, quoi. Et... Moi, j'ai toujours été sur des sentiers un peu à l'écart des grandes routes de la démocratie et du capital. Donc, c'est pas par hasard que je suis arrivé au Maquis. Enfin, c'est par hasard que je les ai connus, eux. Encore que, pas vraiment par hasard. Mais voilà, fallait qu'un jour ou l'autre, si c'était pas eux, ça aurait été un truc dans le genre, quoi. Voilà.
Voilà, parce qu'il y a donc, c'est une ferme, le Maquis, mais autogérée, donc, avec un projet autogestionnaire et qui veut faire aussi de la culture, de l'agriculture autrement. Qui peut nous présenter un peu comment s'est né ce projet Alors, Laura, tu veux ?
Oui. Ouais. Donc le projet du Maquis, en fait, à l'origine, il y avait une coopérative dans les Alpes-Maritimes qui vivait déjà de l'agriculture et qui souhaitait s'ouvrir vers l'extérieur. Il y avait déjà des stages, on a organisé des petits festivals, des choses comme ça. Et on était donc à 1200 mètres d'altitude, sans route pour d'accès, etc. On était très isolés, en fait. Et on a souhaité trouver un lieu un peu plus accessible, où justement ce côté social et culturel puisse exister.
D'accord. Donc vous avez cherché... Donc là, vous êtes dans l'Hérault, c'est mm-hmm. ça ? Et j'ai vu que vous étiez regroupés, ces trois fermes, mmh. qui se sont regroupés, donc c'est le même groupe d'origine des Alpes-Maritimes qui s'est dispersé en trois, ou vous vous êtes mis en réseau avec d'autres gens ?
Voilà, on s'est mis en réseau avec d'autres gens. En fait, la première difficulté pour changer de lieu, c'était d'en trouver un autre et de pouvoir accéder à la terre. C'est le principal problème pour l'agriculture aujourd'hui. Et en plus, on voulait une forme de propriété collective qui corresponde à nos modes de vie et à nos idées philosophiques, à savoir que la terre, elle doit appartenir à ceux qui l'utilisent, et que c'est un bien commun, et que ça ne peut pas appartenir à des personnes de façon individuelle. D'accord. Donc on a créé Terre Commune, qui est à l'origine, c'est une SAS, mais qu'on a pu détourner grâce à une grande liberté dans l'écriture des statuts. Et dans cette donc Terre Commune, il y a trois fermes, trois collectifs. Donc il y a la ferme qui est en Ardèche, Caracole de Sucre, qui font la production de fruits et légumes, de céréales, de plein de transformations. Et puis il y a la ferme où la coopérative qui est aujourd'hui au Maquis était dans les Alpes-Maritimes, où c'est un autre collectif, la FAR, qui fait de l'élevage de brebis laitières et du maraîchage, et notre ferme. Et dans cette société, il y a donc les usagers, les collectifs qui sont dans un collège, et puis les sympathisants, donc des individus qui veulent participer pour préserver des morceaux de terre, pour en faire de l'agriculture paysanne. Et la spécificité, en plus de cette société, c'est que c'est de l'agriculture paysanne et collective.
Alors, tu peux nous dire un peu ce que c'est que de l'agriculture paysanne ?
Alors, c'est une agriculture qui est respectueuse de l'environnement, dont les actions sont plutôt locales, à savoir si on doit acheter des choses ou si on vend, voilà, ça, c'est dans un circuit donc respectueuse de l'environnement, des animaux et des humains.
D'accord. Et donc ça, c'était c'était quand, en fait ?
La création de Terre Commune, c'est 2006, et le collectif est arrivé donc au Maquis à Minerve en 2007.
D'accord. Donc vous produisez au Maquis.
Ouais.
Donc vous produisez des fromages.
Voilà, le gros de notre production agricole, c'est le fromage, chèvre et brebis. Après, on fait de la viande, on a des cochons, on fait du pain, du bois et la restauration avec les produits de la ferme. Voilà.
D'accord. Et donc, c'est quoi la taille du troupeau, des terres Alors, il y a des machines, par exemple ? Il y a des grosses moissonneuses-batteuses enfin,
Non, il n'y a pas de grosses moissonneuses-batteuses. En fait, il faut quand même situer, c'est une colline de 270 hectares de cailloux, essentiellement, qui est bordée par des gorges, qui surplombent la plaine de l'Aude, et derrière, c'est la montagne noire. On a donc 60 chèvres, 50 brebis pour le troupeau laitier. Et on n'a pas de grosses moissonneuses-batteuses parce qu'il n'y a pas énorme de grosses surfaces à faucher, mais on en fauche quand même. Là, cette année, on a fauché 10 hectares de prairies.
D'accord, et vous fauchez avec quoi là, avec...
Alors, c'est avec des outils qu'on met derrière un tracteur, hein, mais c'est une taille quand même raisonnable.
On se fait prêter d'ailleurs, soit dit en passant.
Oui, la plupart du matériel, oui, c'est pas nous qui l'avons.
D'accord, vous faites prêter par les gens du coin ou...
Oui,
par les voisines.
Ouais. On a des voisins, voisines, on a un petit peu de matériel et on complète avec...
D'accord, donc ça veut dire que vous avez des liens avec les gens qui ont pour le coup aussi la même taille d'exploitation aussi.
L'échelle humaine, ouais.
Voilà, on peut dire que c'est des paysans aussi, ça reste...
On reste dans la paysannerie, ouais. On reste dans quelque chose qui est faisable à échelle humaine par 2-3 personnes ou 6 pour nous, avec les gens de passage.
D'accord, et juste les blocages d'accès à la terre, c'est quoi? J'ai pas bien compris.
Bah, c'est d'abord le prix du foncier qui est complètement surévalué, et puis après c'est les banques aussi qui freinent les installations. Si, pour pouvoir obtenir des prêts, il faut prétendre à une agriculture intensive. L'agriculture extensive, elle n'est pas soutenue par le système financier.
Voire même combattu.
Oui. Donc, ouais, voilà. Donc, nous, on a eu de la chance, quand même, de pouvoir obtenir des prêts. Et c'est pour ça qu'on a aussi présenté des structures comme une SAS pour le foncier et une SCOP pour les activités agricoles et une ASSO pour le reste. Mais c'était un peu une obligation si on voulait avoir un minimum de crédibilité.
C'est ça, vous disiez que c'était pas forcément ce qui correspondait le mieux à une organisation collective proche de vous, mais finalement que vis-à-vis des institutions, et c'était important de bien présenter, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Malheureusement, ouais.
Bon, ben, en termes de présentation, on va faire une première pause, je crois qu'on va écouter... Tu veux présenter, je crois que...
Donc, ouais, c'est les oiseaux de passage de Brassens, c'est un tube du maquis.
Un morceau qu'on affectionne particulièrement.
Ouais.
Vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40, puisque nous sommes en direct. A tout de suite.
Décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé, 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous ont ainsi fait vivre la même vie. Ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie d'où de n'en plus avoir ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre. Un coucou régulier, des garanties disons. Oh les gens bienheureux, Tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller, lentement en grand vol, en forme de triangle, arrive, plane et passe. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol. Regardez les passés, eux, ce sont les sauvages. Ils vont tout leur désir, le vœu par-dessus mon. Et bois et mer et vent, et loin des esclavages. L'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez les avant d'atteindre sa chimère. Plus d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux. Moura, ces pauvres gens ont aussi femme et mère et savent les aimer et aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailleux comme vous. Mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, genoux édifiantes. Rien de vous ne pourra monter aussi haut que. Et le peu qui viendra, deux à vous c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
Radio Libertaire 89.4, vous écoutez bien Radio Libertaria, comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois, l'émission de la CNT Éducation Région Parisienne. Et ce soir, nous parlons de la ferme du Maquis. Nous venons d'écouter...
Il n'y a qu'un pas.
Il n'y a qu'un pas.
Voilà, donc c'est effectivement un morceau de Brassens à la base, mais interprété par Il n'y a qu'un pas, qui passera cet été au festival estival du Maquis.
Yes.
Au mois d'août, d'ailleurs, le 13, il me semble.
Voilà.
À vérifier sur le site internet gravirola.com, bien sûr.
Et j'ai le programme, on pourra le donner à l'antenne.
Ça tombe bien.
Et oui. Donc il y a eu quand même quelqu'un pour nous demander ce que c'était qu'une SAS. Donc si quelqu'un veut juste préciser.
Oui. Donc SAS, Société par Action Simplifiée. Donc voilà, c'est une société par action et, qu'on a pu détourner parce qu'il y a une grande liberté dans les statuts. Mais ça reste une société par action avec des noms derrière des actions et qui peut poser problème. C'est pourquoi on réfléchit à d'autres structures aujourd'hui.
Voilà, et j'avais quand même envie de vous demander, donc une ferme autogérée, on a parlé un peu de la production, la taille des troupeaux, la paysannerie, que en plus on a entrevu que vous étiez quand même dans un réseau avec des voisins quand même accueillants. Qui devait être assez content de vous voir, non ?
Mm-hmm.
S'installer.
Mm-hmm.
Et alors, ça recouvre quoi pour vous, concrètement, le fait que ce soit autogéré ? Si vous voulez bien nous décrire, je sais pas, les prises de décision, comment vous répartissez le travail, parce que j'imagine que vous travaillez un peu. Enfin, vous avez une activité, que vous avez une activité, pardon. Et je sais pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu
Bah ouais, on a beaucoup parlé des structures, donc la SCOP, la SAS, on en a parlé en tout cas. Il y a une structure qui nous porte plus, c'est le collectif, ni plus ni moins, donc le côté autogestion. Donc nous, à l'heure actuelle, on est en 6-7 à l'année, et donc on essaye, autant que faire se peut, de prendre nos décisions au consensus. On a une réunion ou deux par semaine, où effectivement on va parler de tout ce qu'il y a à faire sur les différents secteurs, la bergerie, la fromagerie, la comptabilité, l'administratif, les trucs chiants aussi, ça arrive. Plus qu'il ne faudrait. Et voilà, donc ça au consensus, autour d'une table, on essaye de s'organiser ensemble. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de... Donc forcément, il y a des charismes, il y a des gens qui prennent plus la parole que d'autres. Mais on a en tête qu'effectivement, on travaille ensemble sur le même projet à échelle égale, et qu'à partir de ce moment-là, voilà, il faut arriver à s'organiser. Et l'autogestion, c'est ce qui fonctionne. Enfin, c'est ce qui se rapproche le plus de ça.
D'accord. Donc, vous habitez tous sur le lieu ?
On habite tous sur le lieu.
Vous avez, enfin, moi j'ai vu, c'est très très beau. En tous les cas, on en parlera. Tout ce qui est prévu pour accueillir les gens, c'est vraiment, c'est magnifique en fait. J'ai rarement vu parce qu'il y a une partie gîte, donc, mm-hmm. hein, avec un accueil donc dans des bâtiments tout rénové, mais c'est vraiment magnifique.
Bah, la rénovation, on l'a fait au fur et à mesure des années, hein, en fonction ouais. des besoins et du temps et de l'investissement qu'on a. Donc oui, il y a la partie ferme, et effectivement, il y a gîte et chambre et le camping qui est ouvert surtout juillet-août pour le côté culturel et accueil. Notamment, dont parlait Laura tout à l'heure. Le fait que le collectif ait déménagé, c'était ce rapport à l'accueil qui était plus facile.
D'accord, oui, parce que tu disais que c'était pas très accessible, voilà, tu l'as dit tout à l'heure. Et donc, par exemple, si on veut louer, on loue. Soit une parcelle de camping, soit une chambre. On est associé au fonctionnement autogéré ou...
En partie. En fait, on propose aux gens qui viennent passer des vacances ici de s'intégrer dans le fonctionnement de la vie quotidienne. Donc, de gérer les déchets, de gérer les infrastructures mises à disposition pour qu'elles soient utilisables par tous. Donc, ça marche plus ou moins parce que les gens, ils sont en vacances. Donc, c'est pas toujours un peu difficile de les mobiliser, mais il y en a toujours qui sont très motivés, qui participent grandement. Et après, il y a le côté plus ludique où les vacanciers vont proposer des ateliers, des animations, des projections, des actions, voilà.
Oui, parce que quand même, on sent bien quand on lit la présentation du projet, c'est que la partie ferme et prend autant de place que la partie culture, en fait. Hein ?
Plus.
Oui.
À la base, c'est une ferme.
Voilà. Mais enfin, quand je disais ça, c'est que c'est rare quand même d'avoir cette préoccupation d'un lieu culturel qui ne fasse pas de. Enfin, on ressent quand même que c'est il y a pas de il y a une volonté qu'il y ait pas de coupure entre une vie paysanne et une vie de culture qui serait plus du domaine de la ville ou enfin voilà. Mmh. On sent qu'il y a une volonté en tous les cas. Je sais pas si c'est.
Ouais. Et après. Au-delà du culturel, pour moi, c'est plus le côté social, parce qu'effectivement, on a une programmation culturelle juillet et août, et parfois à d'autres moments. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il y a beaucoup de monde qui vient d'un coup. Mais tout au long de l'année, on a aussi, par exemple, on organise des chantiers solidaires pour ceux qui veulent découvrir notre mode de vie. On organise aussi d'autres événements pour partager avec les gens qui veulent donner la main à la pâte et découvrir. Et ça, c'est. Ouais.
D'accord, donc en fait, quand on vient au maquis, j'imagine qu'il y a aussi donc, des temps de réunion pour qu'on s'organise collectivement, qu'on puisse. Par exemple, si on a quelque chose à proposer, comme tu disais, un film, ou qu'il faut se répartir le ménage. Ou...
Bah, pour l'été, il y a des réunions de campeurs toutes hebdomadaires. Donc une fois par semaine, à l'apéro bien sûr, on va s'organiser, on va nous expliquer un petit peu notre fonctionnement et puis expliquer aussi le fonctionnement du camping. Et puis en dehors de l'été, nous on a des réunions hebdomadaires où on intègre les gens qui viennent nous aider aussi. Et ou des réunions plus particulières pour des publics, enfin ça dépend mais ouais, effectivement il y a une sensibilisation à ce mode d'organisation à différents moments. Ouais.
Et alors un chantier solidaire, par exemple, c'est quoi ? C'est aller promener les chèvres ?
Non, pas trop. Non.
Ça peut.
Moi, j'ai fait ça quand j'étais petite, j'ai beaucoup aimé. Hein. Aller promener les chèvres, c'est vraiment génial, dans des endroits reculés comme ça. Mais, ouais, Yann ?
Le chantier solidaire, c'est à la différence du chantier participatif. C'est, on n'est pas sur un chantier, c'est quelque chose qui dure une dizaine de jours, c'est pas quelque chose où on va monter une cabane... de A à Z pendant 10 jours, c'est plus le côté être solidaire à notre quotidien. Donc selon les saisons, effectivement, il va y avoir de la pose de clôture, délagage, là en ce moment il y en a eu pas mal, curer la berge, enfin voilà, c'est nous aider, participer et aussi du coup échanger, partager à ce niveau-là.
Oui, à ce côté, et c'est un échange, comme tu dis. Et pour les gens qui viennent, c'est aussi là, nous, on propose tous les jours à ceux qui veulent venir observer ou filer la main sur la bergerie, sur la fromagerie, sur le pain. C'est l'occasion de découvrir ça. Et à côté, parallèlement, on propose des actions collectives matin et après-midi pour avancer, profiter qu'il y ait un peu de monde, pour faire des actions qui nous prendraient beaucoup de temps si on les... Et puis après, on prend le temps aussi d'organiser des réunions d'information, d'échanges, des projections, des choses comme ça.
D'accord. Et donc, une fois que, à la limite, on a fait un chantier, et si on est vraiment conquis par le maquis, on peut postuler, par exemple, on peut dire nous, on aimerait rester.
Tu dis ça parce
passer
que
le pas.
il y a possibilité de prolonger l'expérience déjà dans un premier temps.
D'accord.
Ce qu'on propose à la fin des chantiers, c'est effectivement de vouloir passer un mois ou deux ou trois, selon nous, nos disponibilités, selon celle de la personne, pour vraiment rentrer dans notre quotidien. Vous savez, sur les chantiers, comme disait Laura, on fait une réunion tous les soirs. Donc c'est assez cadré, quoi, entre guillemets. Mmh. Tous les soirs, on décide de ce qui se passe le lendemain, qui fait quoi, quand. Alors que dans un compagnonnage, et nous, c'est notre vie de tous les jours, c'est on fait une réunion une fois par semaine, et après, on se gère, quoi. Au niveau du temps, au niveau des moyens à mettre en place pour pouvoir faire les choses. Là, on est vraiment dans l'expérience de l'autogestion sur le compagnonnage.
D'accord, mais parce que vous connaissez les ressources, vous connaissez le coin, vous savez où pouvez où se trouve le champ, où se trouvent les... Alors justement, les semences, alors vous faites comment vous... Parce que le pain, vous achetez de quoi faire du pain ou vous produisez vous-même
Non, pour l'instant, on achète notre farine qui a un moulin qui est pas loin de chez nous, qui récolte pas mal de farine avec des variétés anciennes, mais pas que. Et on aimerait beaucoup produire notre farine, mais alors après, chez nous, les terres, c'est pas encore ça, oui. Peut-être dans l'avenir. Okay. Peut-être il y aurait moyen aussi d'en louer dans des endroits plus propices, mais dans tous les cas, il faudrait être plus nombreux. Mmh. Et puis pour les semences du potager, il y a une grande partie qui est produite avec nos légumes, enfin sur place. Il y a beaucoup d'échanges aussi avec les gens autour. Et voilà.
D'accord, donc c'est beaucoup, soit c'est vous qui préservez une partie de la récolte pour la ressemer l'année d'après, soit vous êtes dans un échange, mais vous passez pas par les grands circuits.
Non, parfois on va acheter à des associations comme Coco Paili, ouais. Ou Graines del País, d'accord. Ou Germinance, pour des semences qui nous manquent.
D'accord.
Mais l'idée, c'est de trouver une autonomie, et ça avec d'autres jardiniers et producteurs du coin. C'est en cours, quoi. C'est un processus.
C'est des choses qui se mettent en place là, de plus en plus là, vers chez nous. De, justement, des gens qui se regroupent comme ça pour échanger des semences, pour échanger. Pour changer.
D'accord, donc quand vous dites un potager, ça veut dire que c'est une production pour les usagers, enfin pour les fermiers, les bergères
C'est un peu plus que ça. En fait, on ne peut pas dire que c'est du maraîchage, parce qu'on ne vend pas nos productions à l'extérieur, on ne fait pas des marchés et tout, mais bon, c'est quand même la taille d'un... Enfin, c'est plus qu'un potager, et ça sert beaucoup pour la restauration de l'été, et des autres, enfin pour la restauration, ou pour les vacanciers aussi qui veulent acheter des légumes. Et après, oui, bien sûr, pour les habitants du lieu.
D'accord, donc là, vous n'êtes pas embêté par des contraintes, d'avoir à forcément passer par des semences calibrées
À partir du moment où on ne commercialise pas directement sur les marchés, t'es moins emmerdé, quoi.
D'accord,
ok. C'est clair. Enfin, on fait ça chez nous.
Laurent ?
Oui, j'avais une question de l'urbain, en fait. Il me semblait qu'on ne pouvait plus, justement, arriver à faire ces graines. On était arrivé à un tel état, justement, de...
Dégénérescence.
Oui,
c'est plutôt pas mal. Si tu achètes des semences au supermarché, ou des semences hybrides, en fait, qui ont été sélectionnées, elles sont effectivement plus... tu peux plus reproduire tes propres semences. Et l'intérêt des variétés anciennes, des variétés rustiques, c'est que c'est possible. Et qu'en plus, c'est génial, parce que la semence, elle va s'adapter à ton mode de culture, ton environnement, etc.
Si je comprends bien, c'est que si vous vendiez sur des marchés, vous auriez Monsanto sur le dos, par exemple.
Oui.
Enfin, ou un autre, hein, mais... Mmh. Enfin,
C'est arrivé.
Plus facilement, hein. Ouais.
Pour ceux qui lisent un peu le canard, il y a eu des articles où effectivement des gens qui vendaient sur le marché, le petit pépère du coin, qui vend sur le marché ses tomates et qui se fait accuser de ne pas avoir la carte d'identité de sa tomate. Et qui prend une amende de 3000 euros pour ça, quoi. Donc ça peut arriver en vente directe. À partir du moment où il y a du contrôle, effectivement, ça peut arriver. Après, c'est vrai que chez nous, même sur les marchés, j'ai pas trop l'impression qu'on risque de se faire emmerder. Après, c'est dans les grandes villes, je pense que c'est beaucoup plus compliqué, ou en périphérie, parce qu'il y a beaucoup de masse et que c'est très très installé, tout ça. Voilà, l'avantage de la ruralité, c'est qu'effectivement, il y a une part du maquis, quoi. On se plaint, qu'on résiste.
Et donc vous faites des marchés, vous vendez vos produits dans les marchés.
On vend nos produits sur les marchés. Donc le fromage et le pain.
Ouais, voilà.
Et à la ferme.
Il n'y a pas besoin de carte d'identité pour ça.
Et le
si,
vin
si, si, ah, si, si, si.
Si, on est super contrôlé sur les produits, sur le fromage. Ah, bah oui, après.
Notamment en bio, parce qu'on est en bio.
Il y a certaines choses où on va être. Effectivement, on est un peu protégé, mais sinon, on a quand même beaucoup de contrôle à plein de niveaux. Et au niveau. Sur le fromage, il y a l'hygiène, il y a tout ça. Et oui, bien sûr.
Vous disiez au début de l'émission que vous étiez arrivé au maquis par différents itinéraires, mais alors donc. On s'improvise bergère, on s'improvise fermier. Comment
ça s'apprend. Ça s'apprend.
Oui, il faut de l'envie, des affinités, et puis après ça s'apprend avec l'expérience, et puis après des formations. On en fait très peu, pas assez. On aimerait bien en faire plus, mais ouais, ça s'apprend.
Après, on a la chance aussi d'avoir des gens, pas énormément, mais on a des gens autour de nous qui savent faire et qui transmettent, qui savent. C'est là où l'échange il est important.
D'accord. Donc un jour, si on décide, on peut venir au maquis et dire je voudrais apprendre à être fermière ou bergère. Et il y a une école pour faire ce genre de formation.
Il y a le BPREA. Et après, voilà, on ricane parce que c'est une formation organisée, mais je pense, par la Chambre d'agriculture. Enfin, voilà, c'est une formation très classique. Il y a quelques centres de formation qui vont apporter des pratiques peut-être alternatives, mais c'est très rare. Donc, mais c'est le diplôme nécessaire si on veut obtenir des aides à l'installation.
D'accord.
Et des prêts bancaires aussi.
Voilà.
Le brevet professionnel, un BP, tu as dit quelque chose de ça.
BPREA.
Brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole.
Oh, d'accord.
Responsable.
Oui. Bah oui. Et donc, il y a quelqu'un d'entre vous qui l'a ?
Non.
Non.
J'ai rien compris.
Non, mais c'est un diplôme qui est nécessaire si tu veux obtenir ce qu'on appelle la DJA, l'aide aux jeunes agriculteurs à l'installation, et qui va être aussi une porte d'entrée, un facilitateur. Voilà.
D'accord.
Mais notamment au niveau des banques.
On peut y arriver même si on n'est pas facilité.
Après, c'est aussi pour avoir le statut exploitant agricole. C'est la voie pour avoir ce statut-là. Après, il y en a d'autres. Par exemple, on peut être ouvrier agricole, je ne sais plus le nombre d'années nécessaires, mais au bout d'un certain temps, on peut revendiquer ce statut.
D'accord.
Okay. Et donc, on est plusieurs à pouvoir le faire au sein de la coopérative.
Bon, on refait une petite pause musicale. Souno, tu veux nous présenter la prochaine musique ?
Prochain morceau.
Alors, le prochain morceau, il s'agit d'un morceau tiré d'un petit album CD qui s'appelle Les Allumettes Sétoises, qui est un hommage à Georges Brassens. Le morceau que vous allez entendre, c'est Beau Sable, et les paroles sont d'un copain qui se fait appeler Wack, mais là on va le cafeter, il s'appelle Patrick Duchesne, alias Ribouledung. Et voilà, il est tout à fait dans l'histoire du centre documentaire dont on va parler dans un petit moment.
Donc 01 43 71 89 40 si vous voulez nous appeler. À tout de suite. Thank you. Radio Libertaire 89.4, vous écoutez bien Radio Libertaria, l'émission de la CET Éducation. Et ce soir, nous sommes avec la ferme du Maquis, grâce à Yann, Suno et Laura qui nous ont rejoints pour nous donner envie de faire le pas de côté. Et je dois dire que ça marche plutôt bien, même si on a commencé à l'évoquer, ou ça va de pair, quand on se crée des espaces de liberté, c'est que quelque part on a beaucoup de contrôle. On voulait parler avec vous, revenir un peu sur le contrôle concernant les élevages, et notamment ce qui vous intéresse, vous, les élevages de brebis, de chèvres. Donc si vous voulez nous expliquer un peu où en est la lutte, parce que quand même, il y a des luttes qui s'organisent. Mmh. Oui. Laura ou Yann, je ne sais pas.
Là, par rapport à la question de l'agriculture paysanne, c'est de plus en plus difficile de la pratiquer parce qu'il y a des lois européennes qui font tout pour empêcher ces pratiques. Et la dernière lutte emblématique qu'il y a eu, c'est à propos du puçage des bêtes. Donc, ça a commencé déjà en 2008-2009, cette idée de vouloir obliger les éleveurs à pucer avec des puces RFID les troupeaux. Et il y a eu une fédération, enfin des collectifs de lutte d'éleveurs qui se sont rassemblés pour protester. Ce qui a permis pendant quand même pas mal d'années de repousser cette loi. Qui est quand même finalement tombé. Et depuis décembre 2014, on a obligation de mettre des puces RFID sur nos troupeaux à la place des boucles d'identification qu'il y avait déjà. Donc ça sert absolument à rien si on n'a pas de logiciel pour gérer nos troupeaux. Donc ce qui montre bien que la puce, c'est une première étape. Et qu'après, ça sera le logiciel et des pratiques imposées. Voilà, donc là, c'est une chose, les puces RFID. Donc là, pour l'instant, voilà, c'est obligation de pucer. Mais après, on voit qu'il y a plein de mesures qui vont dans le sens, qui font tout pour assassiner l'agriculture paysanne. Donc nous, on connaît un peu plus le problème des éleveurs. Par exemple, on nous interdit de soigner nos animaux avec des remèdes qu'on fabrique nous-mêmes, avec des plantes ou des remèdes naturels. L'autre dernier truc là, qui va bientôt tomber, c'est l'imposition d'une voie mâle, la voie mâle certifiée conforme. C'est-à-dire qu'il y aura, comme il existe déjà dans les gros élevages intensifs laitiers, un reproducteur, une génétique qui va être imposée à tout le monde. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que c'est une génétique pauvre qui ne correspond pas à nos modes d'élevage extensif, c'est-à-dire de bêtes qui pâturent. C'est des animaux qui vont être plus facilement sensibles aux maladies, donc qu'il va falloir soigner avec des remèdes chimiques, etc. Et puis c'est la faim, mais comme par rapport aux semences des légumes, des semences végétales, c'est la faim d'une biodiversité. Voilà.
Ouais, donc puces RFID, en fait, moi j'ai vu, quand on a le fameux logiciel, et voilà, c'est-à-dire que c'est des troupeaux non seulement qui pâturent pas, mais qui ne voient plus un seul humain. Qui font tout pousser par des barrières, ils vont se mettre pour la traite, donc c'est des machines qui font la traite, et vous m'arrêtez si c'était la science-fiction,
c'est déshumanisé, c'est
ouais,
ça
complètement, ouais. Et donc le berger ou la bergère est derrière un ordinateur et commande tout sur son clavier. Donc c'est vrai que tant du point de vue de l'animal, il y a quand même un appauvrissement absolu des modes de vie, en fait. Il y a vraiment zéro échange, enfin, je veux dire, c'est réduit à l'état de choses, en fait. Mm-hmm. Et du point de vue humain, C'est aussi, alors là, complètement dématérialisé. Enfin, je disais tout à l'heure, si par exemple on a envie d'apprendre à être bergère ou fermière, on peut venir tout ça. Et là, vraiment, c'est, on voit bien qu'on apprend sur des logiciels. Enfin, à la limite, presque, on pourrait imaginer qu'on n'ait jamais vu ou touché une bête de notre vie et que, comme on a appris sur le logiciel à s'occuper d'un. Hein ?
Ouais.
C'est ça ?
Ouais.
RFID ?
C'est ça.
Oui, c'est ça, RFID. C'est ça. Et donc, il y a encore plus longtemps, j'avais vu, ça m'avait beaucoup. Ça a été, on va dire, un premier questionnement qui n'était pas arrivé jusqu'à mon cerveau. C'est qu'en fait, il y avait des femmes assez âgées qui racontaient combien elles s'étaient. Enfin, donc, elles avaient élevé des troupeaux de vaches. Et que, en fait, pour elle, les vaches, en fait, elle les connaissait toutes, une par une. Que, en fait, elles avaient énormément de. En fait, elles pouvaient vraiment les distinguer les unes des autres, même sans le machin d'identité, l'anneau. Et que, en fait, c'était. Enfin, comment dire, il y avait des vrais échanges, quoi. Enfin, je sais pas, ça paraît. Je sais bien que, bon, c'est complètement dénigré dans notre société capitaliste, mais c'est un vrai fait réel que les animaux ont des intelligences vives et qu'en fait, ils supportent là avec à la fois les élevages intensifs, pareil, le fait de devoir. Alors, elle disait, par exemple, de devoir les amener à l'abattoir. Tous les ans, ou je sais plus, c'est ce que c'est le délai, tous les deux ans.
Mais là, ça, c'est un problème aussi, ouais.
Voilà, que c'était terrible. En fait, elles ont dit, moi, j'ai arrêté, en fait, de faire de l'élevage parce que c'était pas possible. Je pouvais pas amener les vaches comme ça, dans des délais très courts à l'abattoir. C'était au-dessus de mes forces, en fait.
Mmh.
Ouais. Vous voulez.
Oui, bah, c'est pas qu'il y a très longtemps. Il y a encore beaucoup d'éleveurs qui travaillent. Enfin, il y a des gens qui ont des centaines, des milliers de moutons. Peut-être les milliers ne connaissent pas tout le monde, mais quand on vit au quotidien avec des animaux, on les connaît en tant qu'individu aussi, quoi. L'élevage, c'est un échange. On prend soin des animaux. En échange, ils vont nous donner du lait, de la viande ou de la laine ou autre chose, une force de travail. Mais le contrat, c'est qu'on en prenne soin, qu'on nourrisse, qu'on soigne, qu'on s'occupe de protéger, etc. Et que si on respecte pas ce contrat, ça n'a plus de sens. Et de toute façon, ça marche pas. Les animaux, ils tombent malades, ils meurent. Il y a beaucoup de pertes. Ça fait pas des bons produits. Enfin, voilà, ça marche pas.
C'est de l'exploitation.
Ouais.
Mais il y a quand même eu la vache folle, qui a quand même révélé la très grande faiblesse du système capitaliste, hein, on peut le dire, et qui a engendré énormément, oui, Pablo, de désastres humains, environnementaux, sociaux, psychologiques, enfin à tous les niveaux. Et là, en fait, par exemple, j'ai envie de dire que le lait de vache, par exemple, en ce moment est pas du tout préconisé. Tout le monde est sommé de se rabattre sur le lait de chèvre ou le lait de brebis. Et en fait, comme quoi le lait de vache, si vous voulez, provoquerait beaucoup de troubles de santé chez l'homme. Et en fait, on voit bien qu'avec les élevages intensifs de chèvres, qui justement ne pâturent plus, parce que c'est quand même des animaux. Enfin, quand on voit les chèvres, elles ont des musculatures et des squelettes qui sont faits pour crapahuter, non ?
Mm-hmm.
Hein ? Et donc, enfermés dans des hangars à tourner au rythme de l'appareil qui les fait avancer, qui les pousse derrière et qui les arrête devant, enfin, c'est le délire, quoi, non ?
Oui, tout à fait. Ouais.
Ouais, c'est le délire de la production de masse, quoi.
Ouais. L'agro-industrie, ouais.
Voilà.
Ouais.
Alors, c'est clair que quand tu as 3000 bestioles, les connaître par leur petit nom, c'est compliqué. Même cette histoire de puçage, dans le monde dans lequel on vit, ça existe, ça ne m'étonne pas. Qu'il y ait un outil logiciel qui va ouvrir le portail à droite pour telle bête et le portail à gauche pour faire gagner du temps, pour la rentabilité, pour la traçabilité aussi. Ça m'étonne pas du tout, mais vraiment le truc qui est gênant, c'est cette histoire d'obligation pour des petits élevages comme les nôtres, où effectivement, comme le disait Laurette, la bergère, elles les connaissent, quoi. Dans le bestiole, elles savent, elles les regardent, elles les touchent, elles partagent. Donc, cette obligation est vraiment inadéquate, quoi.
Et puis, après, faut pas oublier que la puce RFID, elle est déjà dans notre quotidien et depuis longtemps en dehors des élevages. Voilà, que ça nous dérange pas qu'on mette des bracelets électroniques à la maternité, ça nous dérange pas que nos enfants aient des cartes scolaires avec des puces RFID, que tous ceux qui, pour que beaucoup de gens qui ont des passes de transport soient pucés. Enfin voilà, c'est dans la logique de notre monde, de contrôle, de la lutte par rapport aux éleveurs, ça peut paraître assez
secondaire, tu veux dire.
Secondaire, oui. Mais c'est juste toujours des pas de trop qu'on fait dans ce système de contrôle, quoi.
Suno, tu veux je croyais que tu voulais intervenir. D'accord.
J'acquiesce.
Alors, on va peut-être, vous êtes d'accord, écouter un extrait d'un film. Suno, tu veux nous le présenter ? Qui parle de ça ? C'est 2.0.
Le film, il s'agit de Mouton 2.0, qui est complètement axé sur cette histoire de puçage RFID. Et il n'y a pas que le puçage, d'ailleurs. Il y a un moment où on voit comment les bêtes sont guidées pour aller manger et tout. Ça fait furieusement penser à l'urbanisme moderne. On a l'impression que les moutons, c'est juste expérimental pour préparer les humains, quoi. Et c'est vraiment un film qui mérite d'être vu et revu et bien diffusé.
Voilà, donc on écoute un extrait. Et vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40. A tout de suite.
Le côté qu'on a entendu taper partout, entendu le bruit qui n'était pas habituel, on s'est mis aussi à essayer de défoncer la porte de l'arrêt. C'était l'arrêt 2. On y est parvenu, puis après, c'était le ouvrir toutes les portes qu'on pouvait ouvrir, pour que tout le monde participe justement, pour pas qu'il y ait d'innocents.
Quand on a barricadé la porte, c'est la grande porte qui donne de la détention au bar. On a monté des plumas, ouais, en ferraille, jusqu'au.
Désolé, une erreur technique. Ça va.
Qui pourrait concerner potentiellement 40 millions de personnes.
Je pense que c'est dans la logique des choses. J'ai toujours pensé que les animaux étaient le laboratoire pour les humains, quoi. S'ils nous font pucer les brebis, c'est qu'ils ont d'autres pensées que. Bon, il y a le profit, il y a les ventes et tout, mais bon, ils veulent tout fliquer, quoi. Donc, c'est logique qu'après. Après les produits, ça passe aux humains.
Avec l'administration, et puis serait possible aussi d'y adjoindre une seconde puce.
Si je me bagarre contre l'obligation de puçage, c'est aussi un arrière-pensée, j'ai ça, quoi. J'ai pas envie que. Je sais que c'est les passeports biométriques, c'est les cartes d'identité, ça va être à court terme. Bon, au début, ça va mieux passer, ça va être les pédophiles, ça va être les délinquants et compagnie, et puis ça sera tout le monde, quoi. Puis ça sera surtout les contestataires. C'est au départ, c'est pour une bonne, enfin, une soi-disant bonne cause, mais c'est que derrière, c'est pour mieux gérer. C'est pour mieux gérer leur monde.
Un méga fichier, on n'a jamais vu ça sur le territoire français. Un méga fichier de 45 à 60 millions de personnes.
Radio Libertaire 89.4, donc l'émission de la CNT Éducation. On est avec la ferme du Maquis et là tout de suite on avait un extrait du film Mouton 2.0 qui est disponible sur internet en accès libre, puisque la lutte continue quand même si ils essayent de nous faire perdre espoir. Eh bien non, il y a encore des bergers, des bergères et des paysans, des paysannes pour réaffirmer que non, on va pas obéir et on va faire le pas de côté. Voilà. Donc Suno, ce film, on peut se le procurer, on peut vraiment le regarder librement sur Internet.
Déjà, on peut l'avoir sur Internet. Il est accessible par Internet, soit en tapant Mouton 2.0, soit en tapant Synapse sur Google, S-Y-N-A-P-S, qui est le nom de l'association qui a produit le film et qui en produit d'autres d'ailleurs, sous licence libre.
Voilà. Donc, ils sont tellement à faire un pas de côté, notamment au Maquis, qu'il y a une grande saison qui se prépare, c'est-à-dire le festival de l'été. Et juste avant, donc, j'ai eu les dernières infos que vous m'avez transmises. Donc, le samedi 27 juin, il y a les journées portes ouvertes du Maquis. Hein. Donc là, au programme AG de l'association Culture du Maquis, repas tiré du sac, espace de gratuité, visite guidée, réunion d'infos et foire aux questions, musique avec les food trucks, chants révolutionnaires et les carpentes, flamenco subversif, restauration possible le soir sur place. Journée à ne pas manquer pour fêter l'ouverture du festival estival du Maquis, avec sa programmation festive et subversive, avec son espace des luttes, propose cette année de nous sensibiliser à la nature qui nous entoure. On a bien besoin et on est partant. Donc, vous voulez nous parler un peu de tout ça? La journée porte ouverte, c'est un peu pour les gens du coin, non? Pour mobiliser, parce que quand nous, par exemple, on va pas pouvoir aller à la journée porte ouverte, par exemple.
Bah pourquoi?
Comment dire? Qu'est-ce que c'est la
comment
grosse
on a fait pour venir,
gare
nous
TGV? C'est quoi la grosse gare TGV d'abord?
Narbonne ou Carcassonne. D'accord. Non, mais au-delà de ça, la journée porte ouverte.
Oui, c'est une entrée. On fait souvent un événement avant l'été pour fêter le début de l'été. On en profite, pour faire une AG, pour inviter tous les gens qui habitent le coin ou qui est de plus loin, qui veulent venir et qui veulent découvrir. On est dispo pour ça, voilà.
D'accord, donc par exemple, si on est encore un peu hésitant, on y va le 27, on voit si c'est la bonne exposition, si on a la bonne vue sur la montagne noire, et hop, on peut se décider, c'est ça?
Par exemple,
d'accord. On peut goûter les fromages?
Aussi.
Ouais. Et donc, le repas tiré du sac, c'est quoi ça?
C'est chacun qui ramène un petit truc à manger pour le midi. D'accord. Et puis qu'on partage.
Ok. Voilà. Bon, nous on dit auberge espagnole, mais c'est complètement idiot.
Bon, en quelque sorte.
D'accord.
C'est pas très loin d'ailleurs.
C'est pareil.
D'accord. Et alors donc tout ça nous amène sur le festival de l'été. Qui commence le 3 juillet.
Il commence le 3 juillet.
Avec un festival de projection, l'Étoile du Maquis. L'association Ciné Péloche. Et pendant 3 jours, sur 3 stands, on va pouvoir voir plein de films.
Voilà. Alors effectivement, Ciné Péloche fait partie de ce futur intercollectif qu'on essaye de monter, notamment avec Libertalia et le centre de ressources documentaires dont on va parler à côté, après. On n'arrête pas de dire qu'on va en parler, pour l'instant on n'en parle
mais
pas.
Mais si, on va en parler.
Donc voilà, là c'est effectivement donc cette association qui propose donc des projections anciennes et récentes, avec effectivement de l'argentique, du DVD, donc plein de supports. Donc pendant 3 jours, ils ont porte ouverte pour faire autant de projections qu'ils le souhaitent. Il y a un programme qui est établi, qui n'est pas encore sur le site internet, mais ça ne va pas tarder. Dès que je rentre de vacances, je m'occupe de ça.
Pour le cinéma, mais parce que sinon, il y a le programme du festival. Hein.
Voilà, il y a le programme du festival. Donc le festival, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins sur juillet-août. Le festival, c'est les 2 mois. Donc il y a 2 à 3 événements par semaine. Donc il y a du concert, du spectacle, des ateliers cirque, ce genre de choses. Donc, je vous laisserai voir un peu plus précisément la programmation sur le site. Notamment, Il n'y a qu'un pas, dont on a écouté le morceau de Brassens tout à l'heure. Voilà, donc le festival estival du Maquis. Il y a de la billetterie, il y a de la scène ouverte avec des chapeaux, donc c'est accessible. Je ne sais pas trop ce que je peux dire de plus sur le festival.
On peut venir avec les enfants, je crois.
Oui, il y a des choses prévues pour les enfants. Il y a des choses qui ne sont pas forcément prévues pour les enfants.
Oui, c'est bien. Il en faut pour tout le monde.
Oui, c'est ça. Il ne faut pas être élitiste non plus.
D'accord. Et alors donc, tu peux nous donner l'adresse internet du Maquis? pour ceux qui veulent se renseigner, tu l'as?
Pour se renseigner, c'est www.cravirola.com. Alors, Cravirola s'écrit C-R-A-V-I-R-O-L-A. Voilà, donc sur le site.
Voilà, parce que ça, c'est le nom du village.
Alors non, Cravirola, c'est le nom de la petite rivière qui coulait à côté de là où était le collectif dans les Alpes-Maritimes, à la base, la Cravirola, qui veut dire pierre qui roule, si je ne m'abuse. Ah, c'est très rock'n'roll tout ça.
D'accord. Donc.
Sinon, l'adresse physique, parce qu'on a parlé de l'Héro, c'est donc.
Alors ça, on la donne pas.
Ah, vous la donnez pas. D'accord. Oui, il faut trouver sur le site.
Non, nous, on est à Minerve, donc dans le 34, dans l'Héro. Et l'adresse exacte, c'est Boisbas, c'est le nom du hameau.
D'accord.
Voilà, donc en cherchant Boisbas, Minerve.
34210, Minerve.
Ah, il faut descendre jusqu'à Montpellier, quoi.
Narbonne.
Ouais, c'est Narbonne, Carcassonne, quoi. Mmh. Entre les deux.
Donc là, c'est du 3 juillet pour l'instant au 13 août. Voilà.
Au 13 août. Il y a une date le 15, mais pour l'instant, c'est surprise.
Voilà, on imagine que s'il y a des gens qui vont se rajouter après, ils vont pouvoir. Pas tant que ça.
D'accord. On est quand même.
Donc peut-être jusqu'au 15, en tous les cas, si on veut. Ah, pardon, Laura.
Ouais, on a oublié quand même de toucher deux mots sur l'espace des luttes.
Bien sûr.
Ça fait partie de la programmation aussi. Il y a un espace ouvert à ceux qui veulent s'exprimer et témoigner des luttes.
Ah oui.
Et il y a le côté aussi nouveau cette année, c'est des interventions sur l'environnement naturel. Donc il va y avoir par exemple Francis Allais qui va nous parler des arbres. Il va y avoir Monsieur Chaudière qui va nous parler des greffes. Ou Laurent Courniaud, par exemple, qui va nous parler des fourmis. C'est des exemples pour... Voilà, ça c'est nouveau cette année.
Voilà. Donc concert le 30 juillet, concert le 1er août, concert le 5 août. Enfin bon, bref, chapiteau spectacle le 7 août, concert le 9 août. Voilà. Enfin bon, bref, c'est le délire. Et donc, par contre, on peut y aller avant si on n'a pas envie de faire le festival. On peut y aller avant ou après. Oui. C'est possible de réserver, par exemple, de venir au Maquis si on a envie d'être. Non, là, c'est une période un peu quand même compliquée pour vous. Ouais.
Mais oui, bien sûr, il y a des. Le Maquis, il est là toute l'année. Donc, il y a des chambres d'eau, des gîtes qui sont louables toute l'année. Enfin, bon, l'hiver, il fait un peu froid, mais normalement, à l'automne, on va arranger ça pour qu'on puisse venir toute l'année. Et ben, le camping, on peut y venir camper quand il fait beau. Hein. Voilà.
Voilà, sachant que ça me permet de faire la transition, très bientôt, il devrait y avoir donc de quoi nourrir son esprit en même temps que son corps, sa vue, ses sens, grâce à un centre documentaire anti-autoritaire en milieu paysan. En tous les cas, c'est ce qui est prévu. Donc, Suno, qu'est-ce que tu proposes là ?
Alors là, ce centre, il va être composé d'une bibliothèque pas mal importante déjà, mais appelée à se développer évidemment. Le fond, il a été constitué au départ quand l'idée est devenue possible d'envisager un centre comme ça. On avait 3000 bouquins. Mais là, on doit être pas loin de 4000, et il y en a qu'on a reçu des offres de bouquins dont on a dit aux gens, pour l'instant, gardez-les, parce qu'on ne sait pas où les mettre, tant D'accord. qu'on n'a pas construit le local. Donc il y a ça, et ça, ce sera doublé d'une cinémathèque et vidéothèque. Donc la cinémathèque, on a déjà pas mal de bobines, et on est en train de pister pour en avoir encore d'autres. Et en vidéo, y a un copain, le Patrick Duchesne de tout à l'heure, qui est un ancien projectionniste de cinéma et qui a quelque chose comme 4 ou 5 000 DVD, quoi, qu'il va mettre pour la plupart dans le centre. Donc, il y aura de quoi se renseigner, de quoi apprendre pas mal de choses. Bon, l'idée de ce centre, au départ, bon, on avait déjà les bouquins, les films, et l'idée de l'installer à la campagne, c'était pour que justement des gens, pas des universitaires forcément, c'est pas à ceux-là que ça s'adresse aux gens capables d'en extraire la nourriture nécessaire pour pour continuer à avancer vers l'émancipation autant que possible. Donc l'intérêt de faire ça à la campagne, c'était de pouvoir qu'il y ait des gens qui puissent venir, rester le temps qu'il leur fallait pour en tirer ce qu'ils avaient en tiré ou pour des projets quelconques, en ayant de la nourriture le moins cher possible, et le logement aussi. Voilà. Parce que bon, des bibliothèques, il y en a en ville, il y en a une notamment à Montpellier, il y a le centre Ascasso d'Urruti, qui est bien fourni, mais bon, pour aller là-bas à Montpellier, il faut trouver à se loger, aller à l'hôtel éventuellement, c'est un pas trouvé. Donc ça ne peut s'adresser qu'à une certaine catégorie de gens, quoi. Là, l'idée, c'est que ça soit un outil vraiment au service de ceux qui sont capables de s'en servir, quoi, qui ont envie de s'en servir. Voilà.
Mais que ce ne soit pas pour des recherches universitaires.
Non, bon,
ça peut. On n'est pas sectaire.
Mais c'est pas l'objectif numéro un. L'objectif, oui, c'est de renforcer le mouvement social. Ce qui a toujours été une préoccupation du mouvement anarchiste dès l'origine et qui s'est bien perdu depuis la fin de la Deuxième Guerre. Il y a un recul culturel terrible et qu'il faut essayer de surmonter, quoi. C'est l'objet de cette histoire-là.
Voilà. Et donc, en milieu paysan.
Et bah, en milieu paysan, parce que d'une part, là, il commence à se développer, il surgit des luttes, alors que dans le mouvement ouvrier, c'est un peu endormi, parce qu'il a été complètement disséminé. Il n'y a plus de grosses concentrations ouvrières. Et ça fait un obstacle, quoi. Donc, côté paysan, ça fait déjà quelques temps, je dis il commence, mais ça fait au moins 20 ans qu'il y a des luttes qui sont en train de surgir. Donc d'une part, il y a ça. Ça remet en question le monde industriel et soi-disant démocratique, mais autoritaire, parce que l'industrie exige l'autorité. Et du coup, je suis en train de perdre le fil.
Ah si, en milieu paysan aussi.
Oui, voilà, en milieu paysan. Et aussi pour la raison que j'avançais tout à l'heure, de ce que des gens pas fortuné du tout, puis se venir et rester là le temps qu'il faut, quoi.
Alors, en quoi le centre sera, par exemple, différent de celui de Montpellier ou de celui de Marseille, du Centre international de recherche anarchiste, par exemple?
Il sera différent, peut-être pas tant dans le contenu, quoique il peut y avoir des choses dans un lieu qui n'existe pas dans l'autre et vice-versa, mais l'avantage essentiel par rapport à Marseille ou Montpellier, c'est de pouvoir loger sur place, quoi. Et de ne pas être sollicité par tout ce qui vous sollicite dans une ville, ou par la nécessité d'aller faire des courses, de trouver une piole, de, tu vois. Là c'est un bloc.
C'est à côté de la ferme, c'est dans la ferme, en
c'est
fait.
Dans la ferme, dans l'espace de la ferme, oui.
Ce serait sur la fromagerie.
Ouais. Voilà.
Au-dessus de la fromagerie.
On doit y construire le local, là, pour l'instant, parce que y a l'espace, mais le local n'y est pas. Donc,
alors pour donner envie, là, à part le lieu, qu'on a déjà c'est acquis pour le lieu, hein, on va le prendre le maquis très vite. Mais c'est quoi votre ton fond, le fond, comment vous l'avez constitué?
Alors le fond, il s'est constitué essentiellement par des
crampotiers, du Bakounine, qu'est-ce qu'il y a?
Oui, bah ça, évidemment, on a tous les
classiques.
Tous les auteurs classiques. Bakounine, Kropotkin, Reclus, Bakounine, on les a peut-être même en plusieurs exemplaires, l'œuvre complète, qui n'est pas complète d'ailleurs, puisque même Amsterdam n'a pas fini de...
Autre centre international de recherche anarchiste.
Voilà.
Quand même quelques-uns, quand même. Il y en a nombreux, hein, en fait. Hein.
Oui.
Tu disais que la pensée... Alors, il y avait un dossier dans Le Monde la semaine dernière, dans Le Quotidien Le Monde, sur l'anarchie, hein, que ça n'arrêtait pas de publier, de réfléchir. Comme disait Claude Pelletier, interviewé dans Le Monde, Claude Pelletier, l'auteur du Métron, hein, et l'auteur du dictionnaire...
Ben justement, tiens, entre autres, on a le Métron, qu'on a pu sauver parce qu'il y a un copain qui travaille dans une bibliothèque où le Métron partait à la poubelle. Du coup, on a pu le récupérer comme ça, quoi.
Alors, donc, Claude Pelletier disait, mais en fait, s'il y a beaucoup de publications, c'est parce qu'il y a beaucoup de penseurs. Donc, ils seront tous au maquis.
Alors, ça serait un peu exagéré, mais... des penseurs, il y en a, mais il n'y en a pas encore assez, quoi. Parce que voilà, ça, c'est une des... Là, je vais sauter du coq à l'âne, je vais sauter à la guerre d'Espagne. Où s'il a pu se produire en Espagne, ce qui a pu se produire, et il y a eu des choses fantastiques c'est parce qu'avant, il y avait 70 ans de culture ouvrière anarchiste, et dont les Athénées, ça, très peu de gens s'en souviennent, en ont conscience. Ça n'est pas que la CNT, l'anarchisme en Espagne. Si ça a pu irradier, et si la CNT a pu se constituer, c'est entre autres parce qu'il existait ces Athénées qui étaient des foyers de culture ouvrière, quoi.
Et donc, c'est ce que tu veux faire à la ferme du Maquis.
Voilà. Et si, malgré tout ce qui s'est passé de fantastique en Espagne pendant la guerre, ça a fini par échouer par la déroute, c'est parce qu'il n'y avait pas encore effectivement suffisamment de penseurs, et notamment, il n'y avait pas suffisamment de gens qui ne se laissaient pas mener, même à l'intérieur du mouvement, malheureusement, quoi.
Et enfin, ça, le contexte espagnol était quand même face au fascisme européen,
oui.
La guerre.
Non,
bon, la situation était difficile. On peut pas.
Donc il y avait beaucoup d'adversité, mais on n'est jamais assez.
On va pas faire l'histoire.
On refera une émission. Voilà. On va refaire une émission.
Ça serait trop long maintenant. Mais enfin, tout ça pour dire l'importance du travail culturel et culturel profond de vie. Quoi, il s'agit pas de faire de la culture populaire. Style PS ou je ne sais quoi. Il s'agit de donner au peuple les moyens de reprendre lui-même sa propre culture.
Oui, j'ai compris. Mais c'est super dans ce milieu-là, d'accord. Okay.
Et donc, il faut rappeler aussi, quand tu parlais d'Athénée, qu'effectivement, cette coupure qu'on nous impose entre, on va dire, nature et culture, enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est un peu triste de dire ça, mais en tous les cas, c'est-à-dire qu'il y avait une pratique très répandue, je sais, en Espagne, qui était qu'on se réunissait et on partait en promenade et on se faisait des lectures. Absolument. Pendant les pauses qu'on faisait dans la montagne. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un truc qui paraît complètement aberrant de nos jours. Déjà, se réunir pour se faire des lectures, excusez-moi, ça n'arrive jamais. Enfin, moi, personnellement. Si, Laurent.
Oui, il y en a.
Il y a des groupes qui se réunissent pour faire des lectures, mais à ce moment-là, ça s'appelle des groupes littéraires. Mais moi, je parle de groupes syndicalistes, de groupes professionnels, de groupes, tu vois, qui sont deux groupes, pourquoi pas, paysans, enfin, je sais pas, si tu veux, où le livre, la pensée, le débat collectif est fait partie du quotidien. C'est-à-dire n'est pas laissé aux spécialistes, aux penseurs, aux universitaires, aux littéraires, aux auteurs. Tu vois, voilà. Et c'est vrai que c'était une pratique vraiment affirmée, courante, vraiment volontariste.
Absolument. Et d'autant plus en Espagne que les trois quarts de la population étaient analphabètes. Et donc, souvent, il y avait les groupes se constituaient. Il y en avait un qui savait lire parce que par chance, il était allé à l'école, par chance ou par le milieu d'où il sortait.
Oui, ou par malheur.
Et il lisait les bouquins ou les journaux à tout un groupe, et après ils en débattaient, ils discutaient. Voilà. Ouais. Et ce genre de choses avait déjà existé, peut-être pas aussi intensément, mais ça avait existé déjà dans les débuts des bourses du travail, à l'époque de Pelloutier, qui n'avait rien à voir avec ce que sont aujourd'hui les bourses du travail, quoi. Mais c'était déjà le souci numéro un, on peut dire. Pelloutier lui-même a écrit quelque part qu'il s'agissait de donner aux travailleurs la science de son malheur. Voilà.
Je propose qu'on fasse une petite pause. Suno, je pense que tu sais ce qui va passer. Qu'est-ce qui va passer là?
Alors là, le morceau qui vient, c'est « La vie s'écoule ». Un texte de Raoul Van Eghem, et c'est chanté par Fanchon Dymers, qui est une chanteuse belge qui est complètement en dehors du showbiz, comme les autres qu'on a déjà passés d'ailleurs, et qui, moi, je l'ai rencontrée à Barcelone à l'occasion d'un voyage, quoi, et elle est prête à venir dès qu'elle pourra au Maquis faire une ou des représentations. Et en septembre, elle doit se produire à Paris. J'ai pas la date exacte, mais entre autres à Publico. Voilà.
le siège de la radio, hein, 145 rue Amelot.
Ouais.
Donc à tout de suite.
La vie s'écoule, la vie s'en fout. Les jours défilent au pas de l'ennui. Partie des rouges, partie des gris. Nos révolutions sont trahies. Partie des rouges, partie des gris. Nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie. Le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus. La jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus. La jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets. Sans rêve et sans aux images nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité, aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé et va mûrir dans la violence. Brûler les repères du curé, ni le marchand de policiers. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous diriger, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats.
De liberté. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Radio Libertaria de la CNT Éducation RP, ce soir avec la Ferme du Maquis et Souno, qui nous présente le centre documentaire anti-autoritaire en milieu paysan. Et tu veux bien nous rappeler, Souno, qui est-ce qui a chanté là? Qu'on aille tous traquer son concert au mois de
Fanchon
septembre.
Fanchon Daimers.
Alors, si ça s'écrit?
Alors, ça s'écrit, bon, Fanchon, F-A-N-C-H-O-N, et Daimers, c'est D-A-E-M-E-R-S. Et la chanson qu'on vient d'écouter là est extraite d'un CD qu'elle a produit il y a quelques mois et qu'on peut encore trouver. Je pense qu'en tapant son nom,
voilà, c'est pour ça que je voulais que tu l'appelles.
On doit y accéder, quoi. Et quant à la chanson, c'était La vie s'écoule sur un texte de Raoul Van Eghem.
Voilà, Fanchon Daimers qui sera en concert à Publico au mois de septembre.
Voilà, en septembre. J'ai pas la date précise.
On va trouver. Ok. Donc, avant de reprendre la discussion, Pablo, la chronique internationale,
bonjour.
C'est à toi. Bonsoir, Pablo.
Ça va?
Re.
Moi, bonsoir, pardon.
Ouais, re.
Re, bonsoir. Re. Alors, ma chronique, c'est, comme d'habitude, pas toujours la meilleure chronique de la planète. Parce qu'il y a eu beaucoup d'attentats terroristes de la part de la police, un peu partout en fait, au Mexique, au Sahara, et je sais pas, en France, il y a eu les relâchements des flics, non, qui sont tués des gens désarmés. Donc voilà, et en fait, au Mexique, c'est ce qui se passe, ils sont tués un jeune qui s'appelait Ricardo Cadena, qui était en train de faire des graffitis, et apparemment, il y a une loi qui s'appelle la loi de la balle, non, pour qui permet les polices de faire ce genre d'attentats et livrement, etc. Donc, en réponse de cela et en réponse de l'absence de justice par rapport aux 43 assassinats d'Ayotzinapa, les peuples de Guerrero, Puebla, au Mexique, et Oaxaca, pardon, Veracruz, ils sont décidés, avant la journée électorale, de brûler l'Institut National Électoral. Donc voilà, une action qui est très
symbolique.
très symbolique et très efficace, et surtout, parce que surtout la, c'est ce qui s'est démontré au Mexique, à la capitale, que les autodénommés, on dit, non, autoproclamés Parti démocratique, PRD, je ne sais pas comment ça s'appelle, ils ont cherché les gens de Guerrero, un mouvement populaire qui s'est manifesté à la place du Zócalo, si je ne me trompe pas. Donc ils sont tous des compinches, non, des amis, même les, c'est ce qu'ils appellent des gauches comme des droites, pour essayer de réprimer les mouvements populaires au Mexique qui est en train de chercher à défaire complètement le système et que s'il faut absolument brûler les votes dans l'Institut National Électoral, ben, ils sont prêts et ils le font. Donc bravo pour les Mexicains, j'espère que, qu'un jour on arrive à le faire en France. Et sinon, il y a aussi les maires de... La mère de Danza Jalawi, de Haidal, qui a été aussi était victime d'un autre attentat terroriste, la police marocaine. Non, et là, c'est entre le Mexique et le Maroc, et les frics français, on peut les mettre tous dans un bateau et les envoyer à traverser l'Atlantique et la mer, de voir s'ils crèvent ou pas. Parce qu'en fait, ils ont torturé son fils, ils l'ont tué, donc sa mère s'est mise en grève de faim, ça fait 20 jours. Et il faut rappeler aussi qu'au Sahara, les campements de réfugiés, en 2010, si je ne me trompe pas, ils ont commencé à faire des protestations dans les campements. C'est ce qui a déclenché, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les printemps arabes, qui est passé tout de suite en Tunisie, tout de suite en Égypte, après en Espagne, etc. Donc c'est quand même des zones très sensibles à ce type de d'attentats, j'ai dit terroristes, hein, parce que c'est de la terreur pure et nette. Hein. Donc, et puis ensuite, en Turquie, qui est aussi le royaume du terrorisme d'État, et heureusement, il y a eu des grèves qui ont un énorme succès à Bursa, une espèce de sous-traitante de Renault. Et en fait, il y a une espèce de flamme qui arrive jusqu'au c'est des Fiat, à Tofas. Donc il paraît qu'il y a pas mal de grèves qui fonctionnent très bien contre Erdogan et ses compinches. Donc voilà. Et ça, c'est pour la chronique un peu internationale, la chronique triste internationale. Mais bon, pas triste parce qu'on n'oublie jamais, donc du coup, ça nous donne de la force pour continuer à lutter. Et sinon, il y a aussi il faut absolument réserver la date du 30 juin pour faire des actions pour Kolchenko. Et il faut aller voir dans les sites des organisations qui luttent pour libérer nos camarades qui sont emprisonnés à une prison de Poutine, soi-disant qu'il est anarchiste, en plus travailleur, en plus un crimé, en plus il ne veut pas se soumettre à la loi de Poutine. Donc, ça veut dire beaucoup. Oui. Donc, les 30, il faut aller voir dans les sites de la CNT, la CNTSO, de la FA, la L, Solidaire aussi.
Ukraine Action aussi.
Ukraine Action, parce qu'il y aura une action prévue. Et il se trouve que peut-être les 27 vont faire une action à la CNT si on trouve des groupes qui veulent jouer ou de faire une diffusion d'un film. On n'a pas encore réalisé le programme. D'accord. Donc,
voilà. Soirée de soutien.
Soirée de soutien. Mmh. Les 27, c'est un samedi. Voilà, c'est tout.
Merci Pablo. Léo, on enchaîne avec
l'actualité des luttes. Je ne vais pas faire beaucoup plus réjouissant que toi, Pablo, parce que je vais parler des migrants qui sont demandeurs d'asile et qui viennent principalement d'Érythrée, du Soudan et d'autres pays d'Afrique subsaharienne et qui sont pourchassés à Paris depuis une semaine. En fait, ils avaient un campement sous le métro La Chapelle. Ils ont été expulsés. Certains d'entre eux sont allés devant l'église Saint-Bernard, à nouveau ils ont été expulsés, et puis là ils se retrouvent devant la halle Pajol, près du métro Marx d'Ormois. Alors hier, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où les repas ont été servis, tout le monde a été encerclé. Il y a eu 40 migrants qui ont été envoyés en centre de rétention, et puis une cinquantaine de militants qui étaient venus en soutien, qui ont été arrêtés. Et puis aujourd'hui, il y a eu un rassemblement à 18h, justement... devant la halle Pajol. J'ai eu Julie, notre camarade, qui y était, qui m'a raconté ça tout à l'heure. Donc, suite aux violences d'hier, il y a eu un gros rassemblement. Tout le quartier était bouclé. Et puis, c'est parti en manif sauvage, encerclé par les CRS. Il y avait plus de 1000 personnes présentes. Et puis, c'est allé jusqu'à la chapelle. Il y a un rendez-vous là, samedi prochain, le 13 juin. Il y aura des repas et des projections à partir de 19h, place de la Fraternité, métro Robespierre sur la ligne 9, en soutien au collectif des migrants des Barras. Et puis, pour vous tenir informés, parce qu'il y aura plein d'autres rendez-vous à venir, vous pouvez aller sur le site de Paris Lutte Info, qui au quotidien nous tient informés de tout cela. Voilà, donc mobilisons-nous. Et puis, ce qu'on peut faire là, c'est écouter justement une prise de parole qui a été faite par un migrant à la fin de la manif antifasciste qu'il y a eu samedi dernier, le 6. Et puis, si on a du temps, peut-être aussi une prise de parole d'un camarade kurde et puis du collectif Urgence, notre police assassine.
Voilà. Vous avez certainement entendu parler des migrants qui se sont fait évacuer de la chapelle. On essaye de nous faire croire qu'ils ont été hébergés, etc. Il y en a aujourd'hui 150 qui sont à la rue, à la chapelle. Ça fait 3 jours qu'ils sont harcelés par la police et Adil va parler pour eux.
Thanks, we are refugees and we are allowed here in France and around of La Chapelle. We don't have paper and we don't have home. We are sitting around of La Chapelle without nothing.
I'm going to Sorcelles.
On est des migrants, on est très nombreux à La Chapelle. On n'a pas de papier, on n'a pas de logement, et en ce moment, on est dans la rue autour de la chapelle.
We are coming from Ethiopia, Eritrea, and the Sudan. There is a lot of people die on the Sahara Desert when we pass to Sahara.
On vient d'Érythrée, du Soudan, de Somalie, d'Éthiopie, et il y en a beaucoup qui sont morts en traversant le Sahara.
Also, you know that all, a lot of people is dying on the Mediterranean Sea. More than, from 2006, still now, more than 40,000 refugees die on the Mediterranean.
Mais il y en a aussi beaucoup qui sont morts dans la Méditerranée. Plus de 40 000 sont morts en essayant de traverser la Méditerranée.
Yeah, also, we arriving here and we are not... we are not find the solution. We coming from that days and we find other things here.
Et on est arrivé ici et on ne nous trouve aucune solution.
Yeah. Now we want support from the government to have a document and to have a home and to have a place to live.
Et on veut que le gouvernement nous donne des papiers et des endroits pour habiter.
Yeah, thank you. Also, when we have a document, when we learn French, we pay for the government, we are living like everyone here. We are not like to support us government always. We want to live like everyone, we want to work, we want to pay for the government.
Si, quand on aura nos papiers, nous ce qu'on veut c'est vivre ici, et y compris on paiera comme tout le monde pour les taxes, pour le gouvernement, etc. Ce qu'on veut c'est vivre ici, travailler comme tout le monde.
I think the government is have a paper. The paper is not finished from the world. Also they have home. We want these two things because it's special for human being. Everybody, you have a home, but the people, the others, don't have home, sleeping on the street, 3 months, 4 months, 5 months, it is not fair. I ask from France government for the God to give us two things. Thank you.
En fait, le gouvernement, ils ont plein de logements. Les gens qui sont ici, ils ont des logements. Là, il y a des gens, ça fait depuis 5 mois, depuis 4 mois, depuis 3 mois, qui vivent dans la rue. C'est injuste. Et ce qu'on veut, c'est avoir des gouvernements. On veut que le gouvernement nous donne des logements, ou et Dieu aussi qui nous donne des logements.
Thanks.
Merci à tout le monde. Juste, on rappelle, parce que ça fait 3 jours qu'ils mettent la pression, que les flics essayent de les virer de partout, y compris de les empêcher de rester à un endroit où ils peuvent s'organiser, où ils peuvent commencer à s'organiser collectivement. En ce moment, ils sont au métro La Chapelle, dans un endroit qui s'appelle la Halle Pajol. C'est juste à côté de La Chapelle. Chaque soir, c'est une pression pour empêcher que les flics les virent et pour essayer de trouver un endroit. Donc on a besoin de plus de monde. Et s'il pouvait y avoir du monde qui venait ce soir à partir de 18h à la Halle Pajol pour foutre la pression et pour les protéger de la police. Merci, essayez de venir pour les soutenir. Et il y a une collecte parce que, y compris, si vous pouvez amener des couvertures, de la nourriture, on essaye d'avoir de la nourriture chaque fois pour eux, le midi, le soir, etc. Donc il y a besoin de la solidarité de tout le monde. C'est aussi comme ça qu'on se battra face à un gouvernement raciste. Merci.
On va donner la parole à un camarade kurde qui va nous expliquer leur lutte.
Bonjour. Tout d'abord, je voudrais exprimer la solidarité du peuple kurde avec les familles de Clément Méric. Aujourd'hui, nous les Kurdes, nous savons ce que veut dire demander la justice, demander la vérité. Qu'un simulacre de tribunal ou un simulacre de justice ne nous satisfait pas parce que nous n'avons pas les vrais coupables. À Paris, Clément a été tué. Mais n'oubliez pas qu'il y a plus de 2 ans, 3 femmes, 3 militantes kurdes aussi ont été assassinées. Et maintenant, 3 ans après, nous n'avons toujours pas la vérité et la justice sur cet assassinat. Nous n'avons pas la vérité sur les commanditaires de ce triple assassinat. Aujourd'hui, nous les Kurdes, qui est malheureusement devenu spécialiste de la lutte antifasciste, nous combattons en Turquie contre les fascistes. Nous combattons en Turquie contre Erdogan. Nous combattons en Turquie contre la mentalité fasciste de l'AKP. Et nous avons vu qu'ils ont peur. Ils ont peur que les peuples solidaires, la force populaire, les fassent tomber. Ces dictateurs qu'ils ont pris l'habitude de s'asseoir sur leur chaise, ils ont peur de perdre leur place. Mais nous, les Kurdes, nous les avons montré. En Syrie aussi, contre Daesh, les Kurdes ont été les seuls à lutter. Et c'est pourquoi nous sommes encore plus fiers d'être là aujourd'hui, parce que quand nous avons manifesté pour la solidarité, pour Kobané, la plupart des organisations qui sont là aujourd'hui étaient à nos côtés. Et donc nous sommes aussi aujourd'hui ici pour dire que la lutte antifasciste est une lutte internationale, que la solidarité des peuples vaincra ces fascistes, que ces dictateurs, ces gouvernements qui disent être au service du peuple ne sont pas au service du peuple, mais seulement au service de leur propre intérêt. C'est pourquoi le seul moyen est que le peuple prenne le pouvoir et nous disons vive la solidarité des peuples, vive la lutte antifasciste. Vive la lutte antisexiste, parce que les femmes aussi doivent avoir la solidarité. Et nous, les Kurdes, nous avons mis l'égalité à 50-50 en Syrie. Nous avons mis l'égalité à 50-50 en femmes en Turquie. Et c'est pour ça qu'hier, alors que des centaines de milliers de personnes étaient rassemblées, 2 bombes ont été mises par ces mentalités, ces fascistes, en plein milieu des peuples, parce qu'on veut affaiblir la lutte des peuples. Mais nous, les Kurdes, nous avons appris à faire le sacrifice. Nous mourrons s'il le faut, mais nous irons jusqu'à la victoire suprême. Merci à tous et vive la solidarité.
Alors, le collectif Urgence Notre Police Assassine, c'est un collectif de familles qui ont été victimes de crimes policiers. Et on essaye de se soutenir les uns les autres. Aujourd'hui, on est là en solidarité avec la famille de Clément. Puisque le fascisme tue, il ne faut pas oublier que dans la police, il y a du fascisme. Il y a 120 000 policiers en France. Aujourd'hui, le message que nous envoie la justice face à cette impunité policière, parce que ne l'oublions pas que tous ces policiers qui commettent des meurtres, des violences, ne sont jamais condamnés par la justice française. Jamais. La preuve, il y a quelque temps encore, le procès des policiers mis en cause dans l'affaire de Ziad et Bouna. Donc aujourd'hui, le message que nous envoie la justice française, le message que nous envoie la politique française, c'est: vous voulez commettre des crimes en toute impunité. Vous êtes violent, arrogant, méprisant, raciste, fasciste. Engagez-vous dans la police française. Oui, c'est ça le message que nous envoie la justice.
Assassin, plus fort. Assassin, plus fort. Assassin, plus fort. Assassin, plus fort. Assassin, plus fort.
Et tant qu'on ne sera pas des milliers et des milliers dans la rue pour dire stop, stop à l'impunité policière, stop à cette violence, stop au fascisme, ils continueront à nous tuer, à nous maltraiter, à nous mutiler, à nous éborgner. Donc aujourd'hui, merci pour votre solidarité avec Clément. Merci pour votre solidarité parce que vous avez toujours été là avec les familles. Et je vous remercie. Urgence, la police assassine en toute impunité. Urgence, urgence, la police assassine en toute impunité. Urgence, urgence.
Radio Libertaire 89.4, donc on écoutait les prises de parole qui ont eu lieu samedi dernier au moment de la manif antifasciste en souvenir du crime commis contre Clément Méric.
Et merci à Ornella d'ailleurs pour ces enregistrements.
Voilà, donc concernant toutes ces luttes, il y a effectivement Paris Lutte Info qui donne tous les rendez-vous. Je voulais juste ajouter que hier, donc il y a eu effectivement des militants et des migrants arrêtés dans le 18e, mais qu'il y en a une quarantaine de migrants en centre de rétention. Que tous les militants, a priori, ont été relâchés dès hier soir. Donc, il y a sur Paris Lutte Info, il va y avoir des appels, certainement, à aller devant les centres de rétention pour apporter un soutien et s'organiser collectivement pour ça arrive que ça fasse tomber et apporter du soutien aux gens qui sont à l'intérieur. Voilà, c'est. Et donc, Léo, tu rappelles le rendez-vous de samedi ?
Alors, le rendez-vous de samedi, c'est place de la Fraternité, métro Robespierre, et à partir de 19h, un repas et des projections.
Voilà, il y a aussi eu, concernant les migrants, là, dans le 18e, un communiqué des parents d'élèves, je sais, du 18e, qui a été rédigé pour protester contre l'irresponsabilité, on va dire, des pouvoirs publics. Et petit fait croquignolesque, paraît-il qu'hier, la préfecture de police de Paris a délivré une autorisation, mais oui, aux gens d'occuper le trottoir, voilà. Donc, depuis hier, ils ont le droit de rester dans la rue. C'est quand même assez dingue ce qui se passe. Voilà, je sais pas si ça vous inspire des choses, Yann.
Rien de très bon.
Bon, rien de très bon. En tous les cas, c'est quand même important qu'on en parle autour de nous. Et effectivement, c'est quand on est nombreux dans la rue que il y a des solutions qui sont apportées et des issues à nos revendications. Donc il faut surtout pas se laisser abattre et au contraire reprendre du poil de la bête et avoir des pratiques collectives. C'est là-dessus que tu as commencé, Yann, l'émission. Il n'y a vraiment que ça pour faire reculer l'innommable. C'est effectivement ne jamais renoncer à notre libre arbitre ni à notre intelligence collective et donc aller vers les autres et s'informer. L'information n'arrive jamais à nous. En fait, il faut aller la chercher. C'est ce que font beaucoup de gens quand ils allument un poste de télévision. Ils vont chercher de la propagande d'État. Il va falloir maintenant que on soit conscient qu'on peut faire la même chose, mais aller vers les sites d'information autogérés eux aussi et qui permettent de nous mettre en relation et de nous organiser collectivement. Donc, Suno, tu voudrais pas nous réenchanter vers le centre documentaire du Maquis pour nous permettre de nous ressourcer et nous donner envie avec peut-être. Est-ce que tu as amené quelques titres de livres
Oui, j'en ai quelques-uns. Là, je vais même pas tous les lire parce qu'il y en a 46. Ça serait fastidieux.
Ouais.
Sur. Il n'y en a seulement que 210 qui ont été fichés sur les 3000 premiers. De saisie, on a saisi à peu près 500 titres. Mais après, il y a un copain qui établit les fiches des bouquins et tout. Tout ça pour dire que même une fois le local construit, il y aura encore du boulot pour beaucoup de gens. Quoi.
Oui.
Toutes les volontés seront les bienvenues. Et ben, je ne sais plus si j'avais développé tout à l'heure, à un moment tu m'as demandé comment s'était constitué le fonds. J'avais commencé à dire que en grande partie c'était des petites bibliothèques de militants espagnols pour la plupart qui au fur et à mesure qu'ils disparaissaient, on réussissait à récupérer les livres. Pas toujours, il y a des petites bibliothèques qui sont parties à la poubelle, malheureusement. Et donc, il y a pas mal de livres en espagnol. La majorité sont en français quand même, mais il y a un grand fond de bouquins en espagnol. Donc, si tu veux, là, je peux
Tu peux nous faire un petit inventaire à la Prévert, oui, vas-y. Hein? Tu peux nous faire un petit inventaire à la Prévert, tu peux nous les lire.
Ouais, voilà.
Allez.
Et puisque je viens de parler de livres en espagnol, il y aura une des tâches qui pourra se poursuivre dans ce centre, c'est la traduction d'un certain nombre de livres. Je suis d'ailleurs même à la recherche de livres en yiddish, parce que je suppose que là-dedans, il doit encore y avoir des trésors qui n'ont jamais été traduits. Donc, rien que ça, déjà, ça fera de quoi s'occuper. Donc, voilà, bah, je vais commencer. Voilà, là, le premier qui me saute aux yeux est en espagnol. C'est un bouquin de Diego Abad de Santillán. Je ne sais pas si le nom dit quelque chose. Il était au moment de la guerre d'Espagne, il faisait partie de la CNT, des leaders, on va dire, de l'affaire. Alors, le bouquin en question, c'est Ricardo Flores Magón, el apóstol de la Revolución Social Mexicana. Ricardo Flores Magón, l'apôtre de la Révolution sociale mexicaine. C'est un bouquin édité à Mexico par le groupe culturel Flores Magón en 1925.
D'accord.
Il y a Jean Baruet, Sergei Gennadievich Nechayev. Et Mikhail Alessandrovich Bakounine, l'anarchisme aujourd'hui, Bakounine et Nechayev. Ça, c'était publié chez Spartacus en 1972. On a Léon Boussard, Maison Blanche, Problème Noir, 1963. Ça, c'est encore le problème noir aux États-Unis, quoi, quand il commençait à y avoir les premières marches. Pas les toutes premières, mais. Juste un peu avant la création des Black Panthers. Delvit Philippe, Le temps des bateliers, Jean et métiers de la rivière. Il y en a d'autres comme ça, où c'est des bouquins sur des métiers aujourd'hui disparus. Georges Ferré, 1907, La guerre du vin, chronique d'une désobéissance civile dans le Midi. Il y a eu un gros mouvement des vignerons du Midi en 1907. Un des hauts faits, il y a un régiment qui était basé à Agde, pas très loin de Béziers, qui est sorti de la caserne, qui est allé jusqu'à Béziers, la crosse en l'air, quoi, il désertait. Et ça a donné, il y a une chanson qui est Gloire au. Non, c'est Vive le glorieux 17e, c'était le 17e régiment d'infanterie qui signifiait qu'il ne voulait pas aller réprimer. Et c'est depuis cette époque qu'on croise, c'est-à-dire qu'on on s'est mis à partir de là à ne pas faire le service militaire aux gens dans la région où ils habitaient, quoi, pour éviter ce genre d'histoire.
Ouais, pareil pour les compagnies de CRS.
Pareil pour les compagnies gendarmes et CRS. Ouais, ouais. Ouais.
Sur les films, je sais pas, là tu fais la liste des livres et
là,
sur les,
là c'est les livres.
Les livres. Alors les films, pour nous donner un petit peu là, on peut lire. On peut lire en espagnol, on peut lire en français. Et les films,
voilà,
c'est quoi
les films
qui pourrait
en,
nous...
En argentique, on a par exemple Terre sans pain de Luis Buñuel en 16 mm. On a Chris Marker, La Jetée. On a, qu'est-ce qu'on a encore comme film
Moi, la question que je posais,
Laurent,
c'était pour tout ce patrimoine argentique. Est-ce que vous avez pensé à la conservation?
Ah oui, bien sûr.
Tout ça, c'est réglé. Et le support,
d'ailleurs,
justement...
D'ailleurs, on a, parce que c'est un support qui se conserve beaucoup mieux que les supports numériques.
Enfin, il a appelé à disparaître, je veux dire...
Non, mais les supports numériques se détruisent beaucoup plus vite que le support...
Non, mais la chimie de la pellicule...
Oui.
Si vous avez de la pellicule argentique, elle risque de disparaître, parce que...
Oui, mais je te dis, elle demande des soins, c'est clair, mm-hmm. Mais elle a une durée de vie bien plus longue que le numérique. Ah, il y a une légende sur le numérique. On dit qu'il y a des films qui ont été sauvés grâce au numérique. En fait, c'est l'inverse. Si on a pu les reproduire en numérique, c'est parce qu'on avait pu conserver les pellicules. Ça fait encore partie du baratin des technologies modernistes, quoi. On nous fait croire des conneries à longueur de journée, quoi.
Et bien sûr, ma question était déplacée.
Soins, hein, mais je te rassure.
Alors, une deuxième question
si
déplacée.
Les récupère, c'est pour éviter de les perdre.
Laurent.
Concernant le financement, comment vous allez lever les fonds? Alors,
le financement du local. Alors voilà.
Très intéressant.
Pour l'instant, c'est le problème numéro un.
Est-ce qu'on peut concilier justement l'éthique libertaire et avoir avec la réalité économique?
Le financement, on l'avait à un moment donné, mais... Ah, excuse-moi, j'ai peut-être pas...
C'est pas grave. Non, est-ce qu'on... termine.
Attends, je termine celui-là. On l'avait, mais il se trouve qu'on avait acheté une ferme qui était à trois quarts d'heure de voiture de là où ça va se passer maintenant. Et il s'est avéré qu'on s'est un peu précipité parce que la ferme qu'on a achetée, on ne peut pas y mener le projet complètement. C'est une ferme qui est adossée à une colline. Elle est sur deux niveaux. Et le niveau du bas, dès qu'il y a un hiver... très pluvieux, à la fin de l'été, ça n'a toujours pas séché. Donc on pouvait y mener que la moitié du projet. On pouvait soit y mettre les bouquins, soit recevoir les gens, mais pas les deux choses, quoi. Donc pour l'instant, il y a un couple de copains paysans qui est installé dessus. On a décidé d'essayer de revendre ce lieu à condition que les copains puissent rester dessus. On va trouver une formule pour qu'ils puissent rester et continuer leur activité. Ce qui fait que là, on n'a pas l'argent pour construire le local nécessaire au maquis.
Il pourrait être financé par la vente de l'autre, c'est ça? Il pourrait être financé par, par la vente de l'autre local?
Oui, voilà, ça, il pourrait l'être largement, mais la ferme, on va peut-être mettre 3 mois à la vendre, mais on va peut-être mettre 15 ans. On ne sait pas du tout le temps que ça va demander. Et on aimerait bien que les bouquins et les films sortent des cartons le plus vite possible, parce que ça fait déjà quelque chose comme 6 ans qu'on a fait acheter la ferme, et là, on commence à trouver le temps long.
Et donc, une fois que les fonds seront levés, ce que j'espère le plus rapidement possible, donc c'est un projet en autoconstruction, alors?
En autoconstruction,
donc
oui.
C'est les gens de... on appelle à toutes les bonnes volontés?
Il y a un copain là-bas qui est pas sur la ferme de Malescalier, mais qui est dans la région, qui est pas loin du tout, qui lui est artisan, il est couvreur charpentier.
D'accord.
Et comme le projet lui plaît beaucoup, il est prêt à diriger le chantier juste en étant nourri, quoi. Il demande pas un rond. Et avec une équipe de 2, 3, 4 copains qui puissent l'aider, qui soient capables de faire le boulot, il dit qu'il y en a largement assez. Donc si on arrive, comme on le souhaite, à commencer les travaux au printemps 2016,
on pourra commencer à y mettre les bouquins. À la fin de l'été, on pourra déjà installer les bouquins et les films sur le local, quoi.
Et donc, pour la question du financement,
la question du financement, on essaie de mettre sur pied un réseau de soutien.
Est-ce que vous êtes allergique à des financements institutionnels, par exemple?
C'est complètement...
Ça, c'est rédhibitoire.
Ça, tout le pays...
voilà. Je voulais absolument poser cette question.
Je voulais, j'y venais.
Ça, c'est payant.
Ouais. J'ai eu la réponse que j'attendais, je suis très content. C'est super. J'en ai pas d'autres comme ça. En fait, c'était pour amener autre chose. C'était pour amener que...
Laurent.
Voilà. Le discours n'est... Comment on peut arriver à toucher des gens qui auraient des sympathies, entre guillemets, libertaires, mais qui ne connaissent pas forcément tout le fonctionnement, tous les rouages, justement, d'un fonctionnement
autogéré. Mais comment les mettre en contact? Comment se mettre en contact?
Voilà, comment toucher d'autres bonnes volontés que les gens qui sont acquis à une certaine cause?
Un des buts que poursuit l'installation de ce centre aussi, c'est de rompre un peu le cercle militant, d'arriver à aller au-delà. Quoi.
Oui, mais justement, déjà dans la levée de fonds, comment on peut arriver à...
Alors, déjà...
Je vais relayer chez moi, mais peut-être il y a deux personnes.
Ne serait-ce... Oui, non, mais on ne va pas avoir des foules tout de suite, hein, ça c'est sûr. Mais ne serait-ce que de bouche à oreille, on a tous des copains qui... peuvent avoir des sympathies plus ou moins vives, mais qui ne sont pas des militants, qui ne savent pas forcément intellectuellement de quoi ils retournent, même s'ils peuvent avoir de forts penchants inconscients peut-être pour l'anarchisme. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a, et ça a toujours été comme ça, il y en a beaucoup plus en dehors des organisations que dans les organisations elles-mêmes. Et heureusement, parce que si on pouvait compter que sur nous pour changer le monde...
Qui te dit que dans les institutionnels, il n'y a pas un libertaire qui sommeille?
Dans le milieu institutionnel, il peut y en avoir un par-ci, par-là qui se plante, peut-être, mais... c'est pas là en priorité qu'on va les chercher.
Non, mais alors, donc, ceci dit, c'est pas non plus des centaines de milliers d'euros. C'est-à-dire
non,
que
voilà.
C'est
un petit texte qui est très, très beau. J'invite à lire justement comment arriver par.
D'après l'architecte, en le faisant en autoconstruction, pour le moment, il dit qu'il y en a pour 40 000 euros.
Voilà, et donc 40 000 euros.
Nous, on s'est dit, comme il y a toujours des dépassements.
Il n'y a pas besoin d'institution pour 40 000 euros.
Non, mais mea culpa, c'est vrai que mes fiches étaient un peu tronquées. Je pensais que c'était un projet pharaonique, si tu veux. Mais 30 000 euros, oui, on va les trouver.
40
000. Enfin, 40 000. Ça doit se trouver.
Voilà, 40. Bon, après, nous, on se dit, disons 50, parce qu'il y a toujours des dépassements dans tous les budgets.
Ça, c'est normal.
Donc, il en manquerait, pour l'instant, on en a, sonnant et trébuchant, on en a à peu près 10 000. En promesse, on en a 10 000 de plus, mais c'est pas encore archi sûr, parce que c'est quelqu'un qui est en train de se faire construire une baraque, justement, donc qui espère qu'il en restera 10 000 pour pouvoir les mettre là-dedans, mais peut-être ça sera 8, 6 ou peut-être 12.
Donc, voilà, donc en fait, il suffit de 4 personnes.
On les a pas encore dans la main.
4 personnes qui donnent 10 000 euros, ou tu avais fait un calcul comme ça, Suno?
Oui, voilà. Il est expliqué dans le texte, voilà. Du gros mécène qui a
on le trouve en livre,
plein de thunes et qui a de fortes sympathies. On ne le refusera pas. Mais ça peut aller jusqu'à former des petits groupes. On s'est dit que si on arrive à toucher 500 personnes, ce qui dans un pays de 60 millions d'habitants où à peu près tout le monde est mécontent de la situation... Ça doit se trouver, 500 personnes.
Ouais, surtout que maintenant, on va tous au maquis cet été.
Voilà,
il va falloir donner un peu de sous pour le centre documentaire.
Ça pas de traité.
Donc, l'idée, c'est d'appeler déjà le premier cercle de copains qu'on peut, nous, toucher directement, à former des petits groupes avec leurs copains à eux. Des petits groupes, ils peuvent être de 5, 10 personnes, où chacun peut mettre 1, 2 ou 3 euros par mois dans une tirelire et s'engage à faire ça pendant 2, 3 ans.
Voilà, donc il va falloir qu'on s'arrête parce que tu vois, il nous reste 2 minutes.
Ouais.
Donc je vais quand même donner l'adresse où on peut adresser des chèques. Hein, c'est ETAIS, E-T-A-I-S, d'émancipation, donc comme émancipation, était d'émancipation, 37 avenue Anatole France, 42 800 Rive, comme une rive de Gier, G-I-E-R. Les chèques sont à l'ordre de était d'émancipation. Et puis on peut avoir des informations sur on peut demander des informations à une adresse internet, c'est à nouveau était, donc E-T-A-I-S point émanci E-M-A-N-C-I @laposte.net. Bon, et puis sinon on peut quand même aller sur le site du Maquis, www.cravirola.com. C'est, alors Cravirola, comme ça se prononce en fait, C-R-A-V-I-R-O-L-A. Et puis sinon, bah, on peut aussi aller sur le site de la CNT, et puis sinon, on peut aller sur Paris Lutte Info, enfin voilà. Oui. Donc, on est vraiment obligé de s'arrêter parce qu'il y a une émission derrière qui arrive tout de suite maintenant. Laurent, t'avais une dernière question?
Non, c'est bon, merci.
Merci. Donc, merci à tous, Yann, Laura, Suno, on se tient au courant, alors, on en parle autour de nous.
Petite annonce.
On va conclure avec un morceau de musique qui s'appelle Berceuse, qui est extrait d'un CD d'un groupe qui s'appelait, parce qu'ils viennent de se dissoudre, le Raptou. Et dans ce groupe, il y a entre autres, j'ai pas tous les noms en mémoire, mais il y a un certain Alain Brûle qui était correcteur de presse, parce que la musique, comme des tas d'activités passionnantes, ne nourrit pas son monde, mais c'est un excellent musicien.
Et il était à l'origine du FMI, le Front Musical d'Intervention, et qui intervenait beaucoup à Montreux.
Voilà, et il avait formé Fanfare et diverses.
Merci à tous. On peut aller aussi jeudi devant l'hôtel de ville. Il y a l'APHP qui manifeste contre la réforme des hôpitaux.
Et puis les enseignants du secondaire qui sont...